Zéro Micro, l'émission de ceux qui réduisent leurs émissions. Envirobat Occitanie, centre de ressources et réseau d'acteurs du bâtiment et de l'aménagement durable, lance sa série de podcasts Enviro Micro. Notre objectif, aller à la rencontre des acteurs qui, par leur pratique, contribuent à la transition énergétique et environnementale de nos bâtiments et de nos territoires. Épisode 1. Agriculture urbaine, le bonheur est-il dans le pré? Pour ce premier épisode, Chloé Cariello est partie à la découverte du projet Eden. Implanté au nord de Toulouse, Eden se définit comme un espace de coopération et d'expérimentation dédié à l'agriculture urbaine et à l'alimentation responsable.
Sous la chaleur écrasante du mois de juillet 2022, nous avons poussé la porte du jardin d'Eden en compagnie de Jean-Baptiste Ortega.
Bienvenue sur le site d'Eden, un écopôle dédié à l'agriculture urbaine et à l'alimentation responsable. Donc là, vous voyez devant vous donc 1,7 hectare de foncier donc dédié à notre association qui regroupe aujourd'hui 14 structures. Eden, c'est quoi? C'est un lieu vraiment autour de l'expérimentation, la coopération autour de l'agriculture urbaine et de l'alimentation durable. L'idée, c'est quoi? Derrière vous, vous avez le quartier prioritaire Isar-Trois-Cocu. Et donc, l'idée, c'est de reconnecter les habitants du quartier aussi à une alimentation saine, durable. Et comment on le fait? Ben, pour ça, on a plusieurs structures qui apportent des solutions. Donc, tout à l'heure, Laurent va vous présenter les carrés maraîchers, donc une autre façon d'imaginer les jardins partagés. Je vous fais un peu un pitch et Laurent rentrera dans le détail tout à l'heure, mais généralement, jardin partagé, c'est pas forcément évident d'avoir les connaissances, la formation initiale. Là, vous avez un maraîcher qui prépare tout, le plan de culture, donc là, vous voyez les fraisiers, les tomates, etc., avec l'irrigation qui est intégrée. Donc tout est prêt et ce qu'ils appellent les légumeurs ont 2,50 m de l'ensemble de toutes les parcelles. Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Récolter, désherber et suivre les formations de Cyril à peu près une fois par mois pour connaître justement les bons gestes du maraîcher en herbe. Donc là on a une grosse trentaine de familles. Les plants viennent d'où? Ben, vous voyez à côté, vous avez une serre.
Ouais.
La serre donc de la Milpa, qui est une société coopérative d'intérêt collectif, qui a monté un chantier d'insertion, qui emploie aujourd'hui 10 salariés. Et donc, le support d'activité, c'est donc la production de plants. Les plants, donc, vous les retrouvez ici à Eden, mais dans d'autres jardins partagés et dans d'autres jardins de Toulouse. Et ils sont aussi en vente auprès de particuliers, puisque l'idée aussi, c'est quand vous venez donc sur notamment les carrés maraîchers, au bout de un an et demi, ben, vous commencez à avoir les bons gestes du jardinier en herbe. Et donc, du coup, vous pouvez voler de vos propres ailes et décider de monter un jardin en bas d'immeuble avec un petit collectif. Donc, ici, l'idée, c'est de rentrer dans une logique de parcours. On n'a pas vocation à garder les personnes à vitam aeternam, mais plutôt de leur donner les bons gestes pour qu'ils puissent après rayonner ailleurs sur les quartiers toulousains. Et donc, du coup, à un moment donné, ben, si tu veux t'émanciper, tu as besoin de plants. Et là, tu as la possibilité d'avoir des plants locaux, bio, puisqu'on a une labellisation EcoCert, et avec des personnes qui étaient en insertion, donc étaient des chômeurs de longue durée, qui, grâce à cette activité, peuvent se réinsérer, s'insérer professionnellement dans la vie active. Donc, une première boucle, donc pour vous montrer aussi que bah, Eden a été pensé comme un véritable projet en économie circulaire, mais très enraciné, c'est pas que conceptuel. Là, il y a des boucles, des synergies très opérationnelles qui existent sur le site. Ensuite, bah, il faut amender la terre, il faut la nourrir. Pour la nourrir, on a notamment une autre structure qui s'appelle Récup Occitanie et qui récupère les épluchures de légumes, les déchets organiques de 600 familles toulousaines, qu'il récupère à vélo. Et donc, du coup, là, vous voyez deux pavillons de compostage qui récupèrent du bokashi, puisque c'est la méthode qui est utilisée pour récupérer donc ces déchets organiques et qui sont ensuite transformés en compost à l'intérieur de ces pavillons et qui sont ensuite réutilisés, que ce soit sur ce jardin ou d'autres jardins des quartiers des Isards. Donc, deuxième boucle intéressante, où on voit que les Toulousains mangent des légumes, créent des épluchures, s'amendent la terre, ils peuvent recueillir des légumes, et du coup, voilà, on a des boucles locales. Et donc ça concerne plutôt la partie agriculture urbaine sur des produits frais, bruts. Et ensuite, on va descendre de cette butte pour passer à l'autre partie qui concerne plus donc la partie alimentation. Puisque donc pour reconnecter les personnes à une alimentation saine, on a vu que c'était intéressant de mettre les mains dans la terre, puisque du coup, quand on est habitant QPV, on n'a pas forcément un pouvoir d'achat peut-être démesuré pour acheter tout le temps des fruits et légumes bio.
Exactement.
Mais là, pour le coup, pour à peu près 1 € par jour, on a l'accès à une alimentation et des fruits et des légumes, et notamment des légumes de qualité. Et là, donc, on passe au premier hangar de stockage. On va se mettre un petit peu au frais. Donc là, on est sur notre premier hangar de 120 mètres carrés qui est mutualisé. Donc la mutualisation, c'est que c'est un maître mot fort au sein d'Eden. Parce qu'on est vraiment là, pas tant pour commercialiser des espaces, mais pour partager des usages. Et qui dit partager des usages, dit partager... du matériel, des engins, etc. Donc on est vraiment dans une logique de mutualisation pour une logique d'efficacité à la fois économique, environnementale, des ressources que nous employons, en eau également. Donc là, on est du côté de VRAC, qui organise donc un groupement d'achat solidaire qui regroupe des habitants sur différents quartiers. Donc Bagatelle, Trois Cocus, etc. Et là, l'idée, c'est de permettre à des gens d'accéder à une alimentation saine, mais plutôt sur des produits secs. Tout à l'heure, on était plutôt sur du frais. Oui. Là, on passe sur du sec. Là, vous voyez des pennées, de la semoule, des lentilles vertes, des amandes. Vous voyez en face du miel, de la sauce tomate. Quelques produits aussi d'hygiène et d'entretien, du sucre. Et là, en fait, l'idée, c'est quoi ? C'est d'acheter, en gros, des produits de qualité pour abaisser le prix pour les bénéficiaires. Et donc, vous allez commander régulièrement auprès de VRAC des produits que vous venez ensuite récupérer au centre social le plus proche de chez vous ou à d'autres lieux de collecte. Et généralement, avec vos emballages, puisque certains produits comme la farine, le sucre, etc. sont en vrac.
Est-ce pour un public spécifique ou est-ce ouvert à tous ?
C'est ouvert à tous. La vrac est sur une belle mixité de public. Derrière vous, vous avez donc une chambre froide qui est mutualisée aussi, entre vrac d'un côté et à croquer de l'autre. Mmh. Vous voyez cette corbeille de fruits là. Donc c'est l'association à croquer qui la propose. La question qui avait été posée à la base, puisque c'est Cinétique qui avait imaginé incuber ce projet en 2015, c'est trouver des alternatives saines pour les salariés qui avaient un petit creux dans leur société et pour manger autre chose que des barres chocolatées qu'on trouve dans certains distributeurs automatiques. Et avec notamment des personnes à Clinique Pasteur, on avait réfléchi à qu'est-ce qu'on pourrait trouver en alternative. Et le fruit se trouvait comme un produit assez pertinent. Et donc là, voilà, l'idée, c'est que l'entreprise s'abonne et propose à leurs salariés, gratuitement, des corbeilles de fruits dans les salles de pause pour que la main aille plutôt vers une pêche, un brugnon, des cerises que vers une barre chocolatée. Donc nutritionnellement, c'est plutôt intéressant. Et puis, du coup, ça permet aussi de financer nos arboriculteurs locaux. C'est plutôt intéressant.
Bonjour.
Donc Laurent nous rejoint. Et donc là, c'était plutôt sur la partie alimentaire, juste pour avoir une vision globale. Dans Eden, on a aussi une belle filière autour du compostage, puisqu'on a notamment le réseau compost citoyen qui était initialement à Poitiers, qui a choisi Toulouse et le site d'Eden pour installer son siège social, donc qui nous a rejoint. On a Humus et Associés également, sur le compostage de proximité. Je vous ai parlé également de Récup Occitanie. donc qui sont également d'autres structures du collectif Eden.
Et vous, du coup, dans ce projet, quel est votre rôle ?
Alors moi, je suis Jean-Baptiste Ortega, donc je suis cofondateur d'une autre association que je n'ai pas présentée, qui s'appelle Cinétique, et qui fait partie du collectif Eden. Et donc j'ai une double casquette, je suis à la fois administrateur, comme toutes les structures qui sont sur le site, et j'ai un autre rôle puisque je suis co-coordinateur d'Eden pour son animation, l'ingénierie de projet, etc. Cinétique a deux vocations, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, on a également incubé à Croquet et on a dans notre mission de porter des projets d'innovation pour le territoire, et Eden en fait bel et bien partie. Et au démarrage, l'association Eden n'existait pas, le collectif était à structurer, la gouvernance était à enrichir, et donc le temps que ce travail se fasse, c'est l'association Cinétique qui a apporté juridiquement les différents baux, qui est allé chercher les différents financements et qui a fait pas mal d'ingénierie de projet pour rendre ce que vous voyez aujourd'hui devant vous possible. Et ensuite, une fois que le projet s'est structuré, Eden a pu voler de ses propres ailes avec une vie associative et une gouvernance qui est plutôt étoffée autour de ces 14 structures et 12 structures qui sont membres du conseil d'administration.
Et votre projet, comment il est né ? Êtes-vous parti d'un terrain disponible, d'une idée ?
Le projet est né d'un appel à projet qui s'appelle Décis-moi Toulouse. Quelques structures se sont réunies, dont Cinétique, Acroquet et d'autres, pour justement trouver un usage pertinent à ce lieu et pour protéger quelque part les dernières terres agricoles, puisque l'idée, et il y a un acteur que je n'ai pas cité, qui est Bordeaux Bio, qui est le dernier maraîcher bio de la ville de Toulouse, qui est connecté et fait partie intégrante du site et qui est aussi administrateur de l'association, retrouver une vocation agricole à ce site, qui au départ était un site technique de la ville de Toulouse. Où il y avait globalement quelques salariés agents de la ville. Et aujourd'hui, pour vous donner un chiffre, là on va atteindre bientôt les 40 voire 45 salariés sur site. Donc avec un bel usage d'un patrimoine public sur des vocations agricoles et alimentaires. Après, on peut dire également, et c'est important, qu'on a été soutenu par la ville de Toulouse, la métropole. Également par l'ANRU à travers un appel à projet qui s'appelle Quartier Fertile, puisqu'on est directement connecté au quartier prioritaire de la ville, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc Eden a bénéficié, ainsi que certaines structures du collectif d'appui financier, notamment pour la serre, notamment pour l'aménagement du site. Dernier point important, Eden est lauréat PTCE, Pôle Territorial de Coopération Économique, labellisé et financé par l'État, la dernière vague qu'a lancé le ministère des Finances et de l'Économie. Et donc voilà, dans cette logique de créer des belles passerelles entre les citoyens, le monde associatif, les entreprises et également la recherche. Puisqu'il y a l'INRA aussi qui est partie prenante. Sur un projet, peut-être dernier point, un peu structurel qui va être une épine dorsale. Donc je vous ai parlé de reconnecter les habitants à une alimentation saine, à la nature en ville. Et on est porteur d'un projet vers une sécurité sociale de l'alimentation, puisque Eden va porter une caisse locale pour ce projet qui est cher à nos yeux, qui est la sécurité sociale de l'alimentation. Donc là, on démarre la mobilisation des partenaires. On va en citer quelques-uns, notamment le Centre Social, les Arts Attitudes Tactiques Collectif, le GSMIP, également Partageons les Jardins. Et l'idée, c'est justement que l'alimentation ne soit pas, notre budget dédié à l'alimentation ne soit pas la variable d'ajustement à la fin du mois, une fois qu'on a payer nos différents abonnements, nos loyers, mais bel et bien un droit. C'est l'enjeu de ces prochains mois de pouvoir mobiliser un maximum d'habitants des quartiers nord de Toulouse autour de ce projet de caisse alimentaire.
Et à qui appartient le terrain sur lequel vous êtes implanté ?
Alors, c'est un terrain qui appartient à la ville de Toulouse et on est donc lié, donc Eden, la structure associative Eden est liée à un bail tripartite, donc entre la ville de Toulouse qui a le foncier, la métropole qui a lancé donc l'appel à projet des 6 mois de Toulouse et donc nous avons été le lauréat, et enfin donc l'association Eden, et sur un bail de 11 ans.
Et au-delà des 11 ans, comment ça se passe ?
Ben écoutez, déjà 11 ans c'est long, on est passé sur différents baux précaires, tout d'abord sur l'extérieur pour pouvoir lancer la première serre qui était beaucoup plus petite que celle que vous avez vue tout à l'heure, les carrés maraîchers de terre au ciel que Laurent va vous représenter plus en profondeur. Ensuite on a un deuxième bail précaire sur la partie bâtiment, et là vous voyez que on est en train de réaménager les bâtiments, là, les travaux sont en cours. Et donc là, l'idée, c'est de doubler la superficie de bureaux au-dessus de la Toulousaine pour notamment accueillir Humus Associé et d'autres structures. Donc voilà, on œuvre depuis déjà plusieurs mois, plusieurs années sur ce site. Et cette visibilité de 11 ans est quand même... un pas de temps qui est quand même assez long et structurant pour que nos différentes associations, structures puissent se projeter dans le temps. Autre chose aussi, donc là, cette parcelle fait 8000 m2. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un hectare 7. On a un conventionnement avec Vinci sur de l'autre côté de la piste cyclable sur à peu près 9000 m2. Et donc, qui nous permet d'avoir d'autres usages sur ce site. Stockage de matière, etc. Et on va déployer aussi d'autres activités. Donc voilà, aujourd'hui le site tel qu'il est, et avec aussi des vocations, pourquoi pas, à imaginer s'étendre sur d'autres sites toulousains, puisque aujourd'hui je vous ai parlé de Eden comme site propice à l'expérimentation de projets innovants, notamment les carrés maraîchers, mais d'autres, consolider, tester des modèles économiques et ensuite s'essaimer ailleurs à plus grande échelle pour justement massifier l'impact sur le territoire et aussi atteindre des modèles économiques plus ambitieux dans une finalité aussi sociétale. Donc c'est aussi cette idée de voir peut-être à terme un Eden qui soit potentiellement multisite.
Mais avant Eden, quelles étaient les activités sur le terrain ?
Donc il y avait un atelier bois, stockage aussi pas mal de peinture, etc. Donc voilà, c'était vraiment des hangars de stockage et des ateliers techniques de la ville qui ont retrouvé un nouvel usage.
Et concernant la qualité agronomique des sols ?
Du coup, on va pouvoir faire une transition plus sur la partie terre au ciel. Et je te laisse peut-être Laurent.
Ouais. Moi, je suis Laurent Rougerie, co-gérant de la SCOP Terre au Ciel. On travaille dans le domaine de l'agriculture et du paysage avec différents pôles d'activité, un bureau d'études agriculture urbaine, un atelier paysage, et on incube actuellement le projet Les Carrés Maraîchers. Donc historiquement, on a plutôt des activités d'expertise, de conception, d'accompagnement de projets d'agriculture urbaine ou de conception paysagère. Et donc assez récemment, enfin depuis 2020 et avec l'opportunité de ce site, on a vraiment mis les mains dans la terre en développant le projet des carrés maraîchers qui vise à implanter des exploitations maraîchères sur de l'urbain, du périurbain et trouver un modèle hybride entre du jardinage et du maraîchage professionnel pour donner la possibilité à des citadins néophytes complets du jardinage de cultiver leur propre jardin. Ils louent des parcelles pré-cultivées où on a géré tous les travaux structurants en amont, le travail du sol, l'irrigation, la planification des cultures. Et une fois qu'on a planté, là, les légumeurs, comme on les appelle, reprennent les choses en main et conduisent les cultures jusqu'à la récolte. Donc ça, c'est un projet qui est incubé par Terre au Ciel, qui a a priori vocation à voler de ses propres ailes. Et sinon, donc, dans les locaux d'Eden, on a nos locaux professionnels de Terre au Ciel. Donc aujourd'hui, on est 7 salariés, ingénieurs agro, paysagistes ou maraîchers. Et on travaille avec un petit peu tous les faiseurs de ville, comme je disais, sur les questions agriculture et paysage. Et pour répondre à la question un peu plus technique sur la qualité du site, d'abord, il a une qualité qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'il est vraiment intra-urbain. Ça fait partie de ces dernières petites zones en ville où il y a vraiment une opportunité qui répond à une grosse attente sociétale de reverdir un peu la ville, de la rendre plus nourricière et surtout de donner l'accès aux habitants, donc à nos légumeurs en l'occurrence. Et après, bah, historiquement parlant, on est dans les zones maraîchères de Toulouse. Hein. Globalement, toutes les villes se sont construites sur des terres fertiles pour les nourrir à une époque où la logistique ne permettait pas d'aller loin. Et puis, peu à peu, elles ont grignoté tout ce qu'il y avait de mieux comme terre agricole en France, globalement. Et donc, le nord toulousain, Bordeaux Rouge et Isère Trois Cocus et compagnie, c'est vraiment les terres agricoles maraîchères. Donc, c'est des terres, des super terres alluvionnaires, bien qu'un peu caillouteuses. Donc, d'un point de vue agro, c'est nickel. Après, on s'est quand même posé la question d'un point de vue qualité chimique et pollution, parce que on a bien vu en travaillant le sol qu'il y avait eu des mésusages, quoi, depuis un paquet d'années. C'est une friche et il y a eu un petit peu de tout là-dedans. Donc, on voit des activités très anciennes. Hein. On fait un peu nos archéologues quand on va dans la parcelle. On trouve des céramiques, des choses comme ça, des verres brisés, des choses qui datent d'un bon moment, bon, qui ne sont pas méchants, on va dire. Mais on a aussi vu des traces qui ressemblaient plus, à mon avis, à des feux de câble, des choses comme ça, pour brûler les plastiques, récupérer les métaux. Et donc, ce qu'on a fait, c'est des analyses à la fois agro pour nous, mais aussi chimiques des sols. On a fait une analyse moyenne de tout le site et des analyses sur les zones vraiment pépites qu'on avait localisées, on avait peur de la pollution, et il s'est trouvé qu'on n'avait pas de sujet de pollution comme il peut y en avoir à d'autres endroits en ville.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui un besoin de trouver davantage de foncier pour faire essaimer ce type de projet ? Et comment faire le lien avec les professionnels de l'urbanisme ?
Bon, peut-être un tout petit mot pour dire qu'effectivement, la vocation aussi de Eden, c'est de pouvoir accueillir des porteurs de projets qui souhaitent expérimenter des projets divers et variés en agriculture urbaine. On a par exemple Pousse aux abris, tu vas parler à Laurent peut-être rapidement, qui aujourd'hui a à la fois ses bureaux ici et utilise la parcelle Vinci pour des pieds-mer. Et on a vocation justement à mutualiser un maximum tout l'investissement qu'on a fait sur la parcelle, que ce soit en termes d'irrigation, la serre, etc., pour des porteurs de projets qui n'auraient pas les moyens techniques et financiers de se lancer de suite. L'idée, c'est de pouvoir expérimenter avant de partir sur une grande échelle. En restant quand même sur un site un peu contraint en taille de foncier. Mais l'idée, c'est vraiment d'ouvrir nos portes aux porteurs de projets.
Y a-t-il une demande dans le secteur davantage de professionnels qui portent ce genre de projet ?
Alors, on a été partie prenante d'un programme qui s'appelle ISA avec le Conseil départemental France Active Occitanie. Donc, pour justement accompagner, on n'était clairement pas seul, c'était un collectif d'une douzaine de structures. Et donc, du coup, un certain nombre de porteurs de projets portaient des projets très différents, que ce soit sur la partie plutôt alimentaire, assez peu malgré tout en agricole. Et on a notamment accompagné les agribins sur leur projet. Et après, ce projet-là n'avait pas forcément vocation à s'expérimenter sur notre site, mais il est ouvert par contre à d'autres.
Je ferais bien moi quelques ajouts sur cette question, donc plus avec ma casquette bureau d'études agriculture urbaine que carré maraîcher, qui est finalement une petite facette de Terrossel et qui a vocation à en sortir. Mais oui, il y a de plus en plus de demandes. La première urgence, c'est de toute façon de consolider et de préserver les terres agricoles existantes. Donc, disons que l'agriculture urbaine n'a pas vocation à nourrir la ville. C'est techniquement impossible par rapport au potentiel de production. Et c'est même pas souhaitable parce qu'on cherche plutôt des collaborations avec du rural et essayer d'un peu contrer un phénomène de métropolisation qui est assez dramatique d'un point de vue environnemental. Donc, première étape, c'est pas la vocation. Et donc, il s'agit dans un premier temps de consolider, de protéger les fonciers agricoles. Donc, on a les zones A au PLU qui existent. Hein. Donc, il s'agit déjà de les préserver, voire de les protéger. On a pu travailler sur des ZAP, sur des PAEN. Il existe des outils de protection foncée qu'il faut mobiliser pour préserver les terres, et particulièrement en milieu urbain et périurbain, puisqu'il y a une énorme pression foncière. Et puis après, au-delà de ça, c'est des sujets qui répondent à des attentes sociétales et environnementales énormes. On a besoin d'espaces verts en ville, on a besoin d'espaces de respiration, on a besoin de biodiversité, on a besoin d'îlots de fraîcheur. C'est absolument nécessaire. et des approches comme l'agriculture urbaine permettent d'optimiser l'utilité sociale de ces fonciers qui sont trop rares pour y faire rentrer une fonction récréative, une fonction environnementale, une fonction sociale, une fonction alimentaire, tout ça en un seul lieu. Et c'est pour ça que ça me semble particulièrement pertinent. Et c'est des sujets qu'on traite de toute façon, enfin au quotidien, hein, mais c'est pas non plus nouveau d'hier. On travaille avec des collectivités, des bailleurs, des promoteurs, des aménageurs. Mais en tout cas, il faut, sans rentrer dans les détails de méthodologie, c'est des sujets à prendre en compte le plus en amont possible pour les équilibres, ne serait-ce que pour les équilibres financiers des projets d'aménagement ou pour les vocations à long terme de foncier via les réglementations de zonage notamment.
Après, peut-être voir aussi l'agriculture urbaine comme un outil un peu de sensibilisation holistique à une alimentation saine, parce qu'effectivement, on va que peut-être quelques mois dans l'année atteindre peut-être une forme d'autonomisation de son alimentation en termes de tomates ou de concombres, mais 12 mois par an, c'est quasiment impossible. Donc il y a forcément des compléments à aller chercher, et c'est ça qui est intéressant, c'est de faire des passerelles avec ces compléments-là, et le monde rural et d'autres circuits de distribution qui sont plus souhaitables parce que respectant l'environnement, circuit court, etc. Donc il y a cette... et notamment les carrés maraîchers, c'est aussi un outil, c'est non seulement j'apprends à jardiner, mais c'est aussi un outil pour me questionner sur où est-ce que j'achète l'ensemble de mon alimentation, et c'est ça qui est intéressant.
Et on a quelques petits exemples anecdotiques qui illustrent particulièrement bien ça. Donc au carré maraîcher, l'idée c'est de proposer un lieu, un service, ça va bien au-delà de la production de légumes, mais ce qui est intéressant c'est que les légumeurs se remboursent très largement leur abonnement grâce à leur production de légumes. Et on en a plusieurs qui nous ont dit, moi j'ai pas touché à mon budget alimentation, c'est le même qu'avant, sauf que toute l'économie que je fais sur les légumes, je la réinvestis dans autre chose. Et donc, ils ont découvert ce que c'était que des bons légumes bio, locaux, de saison, tout ce qu'on veut, récoltés à maturité. Maintenant, ils questionnent qu'est-ce que c'est qu'un bon fromage, une bière locale, du pain, de la viande. Et donc, modestement sur ce site, parce que c'est encore notre site d'expérimentation, on en a un deuxième à même échelle, mais on ambitionne plutôt d'en sortir entre 3 et 7 ou 8 fois plus grand. Mais modestement déjà sur cette échelle-là, on a mis en place par exemple un petit marché de producteurs qui a permis de faire venir un apiculteur, un brasseur, un producteur de fromage, un producteur de cochon. Et voilà, on est vraiment vitrine d'une alimentation responsable et locale. Local, ça ne veut pas dire au bout de la rue parce qu'à Toulouse, c'est impossible. Ça veut dire forcément un petit peu plus loin, mais quand même sur une ceinture périurbaine ou un peu élargie, quoi.
Pour finir, quels sont les freins que vous rencontrez ?
Les freins qu'on a vus, déjà, c'est l'accès au foncier. Parce qu'effectivement, pour accueillir d'autres porteurs de projets, il nous faut des fonciers supplémentaires. Et après, peut-être aussi un peu juridique, parce que c'est vrai que le travail a été long de construction de bail. Et on voit qu'il y aurait peut-être à adapter des formats peut-être plus simples pour permettre justement de voir éclore et multiplier ce genre de projet. Donc ouais, je vois déjà une problématique foncière. Ouais. Je ne sais pas si tu en vois d'autres.
Ouais, je pense que c'est la première, l'accès au foncier qui est donc intimement lié au volet juridique. Et après, on peut quand même mettre en avant la difficulté pour les projets d'agriculture urbaine de trouver des modèles économiques viables. Et donc, la pertinence et l'importance de questionner la rémunération des services rendus à la ville. C'est qu'il est particulièrement compliqué sur un petit foncier contraint d'être autonome d'un point de vue économique sur une production de légumes, par exemple. Mais par contre, il y a la contribution aux îlots de fraîcheur, il y a la gestion des eaux pluviales, il y a la biodiversité, il y a le poumon vert créé en ville. Et tous ces services écosystémiques, à mon avis, là, seraient importants dans le futur, et c'est quelque chose qu'on questionne à l'échelle de la filière française d'agriculture urbaine professionnelle. Il serait important de rémunérer ces services au même titre qu'il existe des mesures agro-environnementales sur l'agriculture classique.
Et justement, pour essayer d'atteindre un modèle économique viable, ce qu'on essaye de prouver à l'échelle d'Eden, c'est que des modèles de gouvernance innovants qui poussent à la mutualisation permettent d'abaisser aussi les coûts. Parce qu'on va mutualiser un système d'irrigation, parce qu'on va mutualiser un certain nombre de matériel. Et cela permet justement d'atteindre plus facilement un modèle économique sans avoir voilà, des charges de facto et initialement trop élevées.
Ce qu'on peut souligner là-dessus au passage, c'est la multiplicité, la multifonctionnalité plutôt des projets d'agriculture urbaine. J'ai pas mal parlé des carrés maraîchers où on produit en termes de rendement au mètre carré. On n'a rien à envier à un maraîcher pro, mais par contre, on ajoute tout ce volet social. Et donc, sur un même terrain, on va réussir à produire beaucoup tout en accueillant du monde, en proposant plein de services. C'est la même chose pour la Milpa qui a une serre qui, certes, produit beaucoup de plants, mais aussi un outil d'insertion par l'activité économique publique éloignée de l'emploi. À chaque fois, il y a cette réflexion-là qui est un peu une nécessité de trouver des modèles économiques hybrides, mais qui est aussi une force de l'agriculture urbaine et qui la rend particulièrement pertinente parce que, comme je disais, on coche un paquet d'objectifs dans plein de thématiques différentes. C'est la multifonctionnalité, quoi, l'entrée, en fait. Et c'est, ouais, c'est ça qui le rend pertinent. Mais c'est assez logique, quand on voit la contrainte du foncier, de se dire, on a un terrain agricole, optimisons son utilité. Produire beaucoup, faire venir un maximum de monde, contribuer à l'environnement, gérer les eaux pluviales, proposer, enfin, proposer un abri à biodiversité. Voilà, c'est sur un site, on arrive à faire énormément de choses. On a plein d'acteurs qui arrivent à s'imbriquer plutôt bien sur un tout petit site. Et ouais.
Nous quittons Jean-Baptiste et Laurent pour aller à la rencontre de Guillaume, qui va nous en dire un petit peu plus sur une autre des structures présentes sur le site d'Eden, la Milpa.
Donc je suis Guillaume Chachan, je suis l'un des trois cofondateurs d'une société qui s'appelle la Milpa, donc il y a maintenant plus de 3 ans. Et la Milpa, c'est, on se présente comme un opérateur plutôt en agriculture urbaine. Il y a des gens, des structures qui font plutôt gérer de la conception d'espace. Nous, on est vraiment plutôt opérateur, donc on fait les choses et on essaie de promouvoir l'agriculture urbaine en ville par des réalisations concrètes et à travers 3 activités. Une activité qui est plus tournée paysage, qui est en gros notre parti pris, c'est de dire on peut faire ce qu'on appelle habituellement de l'espace vert. On peut le faire différemment et l'orienter vers l'agriculture urbaine. Et donc, du coup, on a un modèle qui nous permet de, en gros, d'intervenir au même titre que n'importe quelle entreprise d'espace vert. Et donc, on fait des tontes, on fait des tailles de haies, mais on fait aussi des potagers. Et on considère le potager comme un élément de paysage. Et donc, du coup, on entretient un espace vert globalement, mais on l'entretient différemment par rapport à une entreprise d'espace vert lambda. Donc, ça, c'est notre activité de paysage. On a une activité de production horticole qui est à côté de moi, donc sous serre, et qui c'est une activité de production qui est une première brique de notre activité de production, puisque la deuxième brique, et c'est notre troisième activité, ce sera la production maraîchère qui va arriver en début d'année prochaine, 2023, toujours en secteur urbain, mais plutôt à Blagnac, avec voilà, de la production maraîchère beaucoup plus classique. Donc voilà, ce seront les 3 activités qu'on va développer. Et alors jusqu'à maintenant, seule l'activité de production était porteuse d'un chantier d'insertion, et seule l'activité de production était aussi sous format coopératif en termes d'organisation d'entreprise. À partir de l'année prochaine, on va regrouper l'ensemble de nos activités sous un format coopératif, une société coopérative d'intérêt collectif, et l'ensemble de nos activités seront agréées chantier d'insertion.
Quel lien peut-on faire entre votre activité et l'urbanisme, les projets de quartier ?
Donc nous, effectivement, on fait partie d'Eden là, depuis le début. Et on a été les premiers à s'installer ici parce que l'intérieur, les bâtiments n'étaient pas disponibles. Donc nous, on s'est installé ici. Les bâtiments ont été disponibles en janvier 2021. Les extérieurs ont été disponibles plus tôt, en janvier 2020. Donc on a installé effectivement la serre et aménagé les espaces un peu au-delà aussi. Et voilà. Et donc du coup, on en est une des 13 ou 14 structures qui sont à Eden. Et effectivement, je rebondis sur ce que disait Jean-Baptiste à l'heure. On essaie vraiment de promouvoir des projets en commun, à la fois sur le site et puis en dehors du site. Alors sur le site, bon, on a des échanges très réguliers autour de projets communs. En dehors du site, c'est toujours un peu plus compliqué. On a des projets avec des structures du quartier, ça peut être des assos du quartier 3 cocus à côté, avec le collège qui est juste à côté aussi. Enfin voilà, on essaie de promouvoir ça. On voudrait aussi éventuellement essayer d'aller vers des sortes d'offres communes aussi par rapport à des clients qui pourraient être des promoteurs, des aménageurs, des bailleurs sociaux. Enfin voilà, proposer une offre qui soit un peu globale, qui implique tout ou partie des structures d'Eden.
Après, pour répondre à la question sur le lien entre notre activité et la dimension urbanistique, aménagement urbain, disons que notre activité, elle est vraiment en lien avec ces sujets sur ces trois pôles que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire sur l'activité paysage. On essaie de promouvoir aussi, on en parlait tout à l'heure, une occupation temporaire des espaces qui sont vacants. Pour nous, c'est rattaché à l'activité de paysage parce qu'il n'y a pas de dimension marchande. C'est-à-dire que, alors c'est une prestation évidemment, mais le modèle économique, c'est pas celui de la production et on vend les produits. Parce qu'on est sur des surfaces qui sont disponibles temporairement, parce que en général les sols sont quand même assez compliqués à travailler. Et parce que c'est des surfaces qui sont en général relativement réduites. Donc c'est difficile d'avoir un modèle économique qui ne repose que sur de la production. Mais en tout cas, ça permet de valoriser des espaces. Donc aujourd'hui, on a trois espaces, quatre bientôt, qui sont des espaces des parcelles maraîchères qui font à peu près entre 800 et 1000 mètres carrés. Donc on commence à avoir une production qui est un peu significative. Des projets qui permettent de valoriser des espaces qui sans cela seraient plutôt laissés un peu à l'abandon, voire en tout cas dans certains endroits mal occupés, et donc du coup ça permet d'avoir une occupation positive de ces espaces, notre modèle technique fait que quelque part on peut s'installer sur à peu près n'importe quel espace. Même si les sols sont très pauvres, même si ça vient comme à côté après une démolition d'immeuble, on peut générer de la production très rapidement. C'est-à-dire que si on a le terrain au mois de janvier, au mois de mars, on peut avoir des productions. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on essaie de promouvoir pour des occupations temporaires. À côté, on va investir aussi pour 2 ans là un ancien stade de foot. Voilà. Donc c'est vraiment en attente, tous ces espaces qui sont en attente de projets, on essaie de les valoriser au mieux, d'en faire des supports de production, des supports d'animation, des supports pédagogiques, d'essayer d'y trouver des usages variés. Après, il y a une deuxième dimension, alors là, qui est peut-être plus en lien avec la dimension de production, avec notre activité de production, et ce qu'on essaie de promouvoir, c'est plus compliqué. Mais c'est d'essayer de travailler avec des promoteurs et peut-être surtout des aménageurs pour essayer d'intégrer la dimension agricole et maraîchère dans les opérations d'aménagement. C'est-à-dire quand on a par exemple une ZAC qui fait 15 hectares, qui prend place sur du foncier qui était auparavant d'ailleurs en général du foncier agricole, on essaie de travailler avec les aménageurs, notamment, sur cette thématique agricole et comment faire en sorte d'intégrer une activité agricole au sein d'une ZAC, par exemple. Ce qui est possible, c'est-à-dire que sur 15 hectares, il y a toujours, en général, 2-3 hectares qui ne sont pas densifiés parce qu'ils ne sont pas constructibles, parce que c'est inondable, parce que c'est sous une ligne à haute tension, parce que plein de choses, plein de raisons. Et souvent, on en fait un parc. Bon, alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas de parc d'agrément, mais il me semble qu'on peut effectivement avoir les deux dimensions. On peut avoir un parc d'agrément, mais on pourrait aussi avoir une activité de production maraîchère, en l'occurrence. Et on essaie de promouvoir l'idée que, de même qu'on installe dans une nouvelle zone d'aménagement une boulangerie, un restaurant, un café, on pourrait aussi installer un maraîcher. Ce serait une activité commerciale comme une autre, avec un modèle économique, celui de la production, de la vente de produits sur place, hyper localement. Donc c'est quelque chose qu'on essaie de promouvoir, sur lequel on aimerait bien avancer. Aujourd'hui, ça reste encore à l'état de projet, c'est pas encore complètement ancré dans les mœurs. Enfin, ce qui aujourd'hui est plutôt acquis, je dirais, c'est que, en gros, il y a quand même très peu d'opérations de promotion, notamment, qui sortent sans qu'il y ait un petit potager, ce genre de choses. Mais on n'est pas sur une dimension vraiment productive, on reste sur une dimension un peu d'animation, ce qui est déjà très bien. Mais je pense qu'on peut aller plus loin et avoir vraiment une activité de production en zone urbaine. Mais ça demande effectivement une conception des projets qui est différente.
Cela nécessite d'intervenir assez tôt par rapport au temps de conception et de construction du projet ?
Complètement. Mais c'est vrai que il y a cette problématique du calendrier, c'est certain. Mais il y a aussi le fait que voilà, les acteurs de l'aménagement, de l'urbanisme, etc. Aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression qu'ils sont plutôt dans un état d'esprit, enfin, qu'il y a un doute sur le fait qu'on puisse installer une vraie activité maraîchère productive avec un modèle économique qui tient la route dans des projets d'aménagement. Moi, personnellement, j'en suis persuadé. Enfin, à partir du moment où effectivement on a l'espace et que après on trouve un moyen effectivement de financer un certain nombre d'investissements, qui sont les deux problématiques importantes, et puis la disponibilité du foncier et la dimension plus juridique, enfin le bail qui est accordé. Voilà. Mais je pense que c'est des montages qui seraient intéressants de travailler avec les professionnels de l'aménagement et de l'urbanisme.
Merci à Jean-Baptiste Ortega, Laurent Rougerie et Guillaume Chauchon pour leur accueil et leur témoignage.
Et merci à Chloé Cariello d'avoir mené cette interview. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode d'Enviromicro, l'émission de ceux qui réduisent leurs émissions. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le diffuser autour de vous et à donner un j'aime sur votre plateforme d'écoute. Ce podcast est réalisé par Envirobat Occitanie. Retrouvez toutes nos ressources en ligne sur www.envirobat-oc.fr.